Ouais, alors, imagine la scène. On est en 1874.
D'accord.
Et il y a une femme, une certaine Frances Havergal, qui arrive dans une immense maison de campagne anglaise. Elle y va pour un séjour de 5 jours. Mais elle a une idée en tête. Une idée presque folle, en fait.
C'est-à-dire?
Ben, elle veut que absolument chaque invité de cette maison vive une transformation spirituelle radicale avant la fin du week-end, sans exception.
Ah oui, c'est ambitieux comme projet pour des simples vacances.
Grave. Et le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que, eh ben, elle y parvient. En l'espace de 5 jours, l'atmosphère mondaine de la maison se métamorphose totalement.
C'est fou.
Ouais. Elle-même passe une nuit entière sans dormir, traversée par une sorte d'inspiration fulgurante. C'est d'ailleurs cette nuit-là qui va donner naissance à son célèbre hymne « All for Jesus ».
Ah oui, je connais.
Mais c'est là que je veux en venir. La véritable clé de cette anecdote, le détail qui change tout, c'est que cette femme n'avait consacré sa propre vie à sa foi que 14 jours avant cet événement.
Attends, 14 jours?
Seulement.
Seulement.
14 petits jours. On est vraiment aux antipodes de la routine, tu vois. Pas d'habitude dogmatique accumulée sur des décennies. C'est juste l'illustration pure de l'impact fulgurant d'une confiance authentique.
C'est un point de départ hyper saisissant, parce que ça pose immédiatement l'enjeu de notre sujet. La différence colossale entre une vraie transformation intérieure et juste l'accumulation de rituels de façade.
Exactement. Et c'est la grille de lecture parfaite pour nous aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça.
Je suis prête.
Pour notre dossier du jour, on plonge dans une source académique fascinante. C'est la transcription de la 14e session d'enseignement du docteur John Oswalt.
Tout à fait.
Et son travail, il se concentre sur les chapitres 28 et 29 du texte antique d'Ésaïe. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire un simple survol théologique ennuyeux.
Surtout pas, non.
On veut vraiment extraire la psychologie intemporelle de la gestion de crise. On va parler de leadership, de la mécanique de la panique et de comment le cerveau humain réagit face à un effondrement qui semble, inévitable, quoi.
C'est un programme chargé.
Ouais. Mais pour bien capter cette psychologie, il faut d'abord mesurer l'ampleur de la menace à cette époque. On parle pas d'un vague malaise philosophique ici.
J'ai au cœur d'une terreur absolue. Historiquement, pour situer, on est entre 722 et 701 avant notre ère.
D'accord.
Et la menace, la vraie grande menace, c'est l'Empire assyrien. Faut vraiment comprendre qui sont les Assyriens à cette époque. C'est pas juste une armée classique qui veut conquérir des territoires.
C'est pire que ça.
C'est une machine d'ingénierie d'effacement culturel. Je veux dire, ils se contentent pas de gagner des batailles. Ils déportent des populations entières, ils écorchent leurs ennemis vivants.
Ah purée, ouais, carrément.
Ouais, ils utilisent la terreur psychologique comme arme première, c'est d'une brutalité inouïe.
Et d'ailleurs, la Samarie, qui était la capitale du Royaume du Nord à l'époque, elle vient juste de tomber. Elle a littéralement été rayée de la carte.
Exactement, c'est tout récent pour eux.
Et cette immense broyeuse humaine, elle s'est avancée, et maintenant elle campe à une dizaine de kilomètres, à peine 6 miles, au nord de Jérusalem.
C'est la porte à côté.
C'est rien du tout, 10 kilomètres. Leur véritable objectif stratégique, on le sait, c'est l'Égypte, la grande puissance économique du Sud. Mais le royaume de Juda, avec Jérusalem, c'est juste, c'est un simple dos d'âne sur leur autoroute militaire.
C'est une super métaphore.
La pression psychologique sur les habitants à ce moment-là, elle doit être juste indescriptible.
C'est l'asphyxie totale. Tous les états tampons autour ont été balayés. La seule question qui résonne dans les rues de Jérusalem, c'est une angoisse pure, genre, qu'est-ce qu'on va faire? L'anéantissement est là.
Et c'est précisément ce climat de terreur qui donne tout son sens à un mot hébreu récurrent dans ces textes. Un mot qui est souvent traduit par « malheur ».
Oui, le fameux « woe » en anglais. Le docteur Oswalt s'attarde beaucoup sur ce terme dans la source, parce que, on le comprend souvent très mal de nos jours.
C'est vrai que quand on lit « malheur à vous », on entend presque un juge en colère au tribunal.
Ouais, avec le marteau et tout.
Voilà. Une sorte de condamnation punitive. Genre, vous avez été méchant, voilà la punition.
C'est ça. On l'imagine comme une menace super colérique. Mais la source démontre que c'est tout l'inverse.
Ah bon?
Ouais. C'est plutôt un cri de deuil. C'est l'annonce d'un enterrement qui a déjà commencé. C'est un chagrin profond, l'équivalent de dire « Hélas, regardez ce désastre inévitable que vous avez provoqué. »
Ah, ça change complètement le ton, en fait.
Totalement. Et ce deuil, il introduit la grande thèse des chapitres 28 à 33. La phrase clé, c'est « Malheur à ceux qui ne veulent pas attendre. »
Attendre.
Et l'auteur précise une nuance vitale ici. Dans ce contexte précis, le synonyme d'attendre, c'est « faire confiance ». Face à une machine de guerre indestructible, s'agiter dans tous les sens, c'est mortel. La seule vraie stratégie proposée, c'est d'attendre les directives de Dieu.
Attendre? Franchement, c'est difficile à avaler comme concept face à une urgence pareille.
C'est contre-intuitif.
Totalement. Imaginons le propriétaire de la dernière maison encore debout dans un quartier en pleine démolition.
Mmh.
Il a vu toutes les autres maisons autour s'effondrer les unes après les autres.
Mmh.
Et chaque hiver, au retour des campagnes militaires, il entend les bulldozers assyriens qui se rapprochent un peu plus.
Le bruit de fond constant de la destruction.
C'est ça. Et là, lui dire de simplement attendre et faire confiance, mais ça va à l'encontre de tous les instincts de survie du cerveau humain. L'instinct, c'est de courir, c'est la panique.
Ou alors, le déni absolu.
Ouais, le déni, c'est classique aussi.
Et c'est exactement ce déni que le texte observe chez les dirigeants d'Éphraïm, juste avant leur chute. Face à cette horreur géopolitique, au lieu de faire preuve de lucidité, la classe dirigeante se réfugie dans une illusion totale.
Ils font l'autruche, quoi.
Pire que ça. Le texte les décrit comme des ivrognes arrogants portant des couronnes de fête qui finiront piétinées dans la boue.
Ah ouais, carrément.
C'est une image forte, d'ailleurs, inspirée par la topographie de leur capitale. La ville était bâtie sur une colline super fertile qui ressemblait à une couronne de fleurs.
Mais je me demande, en lisant ça dans la source, est-ce qu'on parle d'une ivresse littérale? Genre le gouvernement qui s'effondre dans des grosses fêtes pendant que l'ennemi approche?
C'est une bonne question.
Ou bien est-ce que c'est une métaphore de l'ivresse du pouvoir? Parce que psychologiquement, ça me fait penser à cet individu complètement ivre lors d'une soirée, tu sais de qui je parle?
Oh que oui. Celui qui parle super fort.
Exactement. Il monopolise l'attention, il est intimement persuadé d'être brillant et intouchable, alors que tout le monde dans la pièce voit bien qu'il est en train de sombrer et qu'il est ridicule.
Selon l'auteur, les deux réalités se superposent en fait.
D'accord.
L'ivresse physique, c'était probablement très courant comme échappatoire face au stress énorme, mais c'est vraiment l'ivresse psychologique qui est fatale ici.
Le délire de grandeur.
C'est ça. C'est le comportement de ceux qui refusent catégoriquement d'admettre leur propre vulnérabilité. Et c'est là que l'analyse du docteur Oswald devient vraiment pointue.
Vas-y.
Quand le cerveau politique est anesthésié par cette arrogance, le discours public s'effondre logiquement. Si les élites sont ivres d'elles-mêmes, elles ne peuvent plus communiquer aucune vérité complexe.
Ce qui amène ce fameux passage incroyable sur le langage.
Ah oui, le charabia.
La source souligne que le prophète utilise des mots hébreux absurdes pour imiter ce que les dirigeants offrent au peuple. Les mots, c'est, attends que je prononce bien, kadava kadava. Lave, vlave.
C'est génial à prononcer.
Ouais, mais c'est littéralement du balbutiement, des syllabes de nourrisson. Le sous-entendu est terrible en vrai.
Ah c'est hyper insultant.
Puisque les dirigeants fuient la réalité de la menace, ils se mettent à traiter la population comme des bébés. Le discours politique se réduit à un charabia enfantin complètement vide de sens.
Et ce qui est fascinant ici, c'est l'opposition magistrale que construit le texte.
Comment ça, Evelyne ?
D'un côté, on a cette couronne de l'ivresse, cette arrogance politique qui infantilise tout le monde.
Ouais.
Et de l'autre, le texte oppose la couronne divine, la celle qui apporte ce que l'hébreu nomme le mishpat.
Attends, je veux être sûr de bien saisir la nuance pour nos auditeurs. Le mishpat, dans le langage courant, souvent on traduit ça juste par justice, non ?
Souvent, oui.
On imagine un tribunal humain qui tranche un litige, un juge avec un marteau. Mais là, dans ce contexte, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste.
Absolument, et c'est un point central de la source. Réduire le mishpat à un simple verdict juridique, c'est passer complètement à côté du concept. L'auteur analyse la racine du mot, et il démontre que ça renvoie à l'idée d'ordre fondamental.
L'ordre fondamental, c'est-à-dire ?
Le mishpat, c'est la restauration de l'ordre cosmique tel qu'il a été pensé par le Créateur. C'est comprendre que l'univers, c'est pas un chaos malléable, tu vois ?
Ouais, il y a des règles.
Il obéit à des règles profondes, moraux et physiques. Et quand les dirigeants s'enivrent de leur propre pouvoir, ils tordent cet ordre cosmique. Ils essaient de plier la réalité à leurs propres illusions.
C'est un peu comme essayer d'ignorer la loi de la gravité, juste parce qu'on se croit exceptionnel.
C'est une excellente comparaison.
Ça finit toujours par un crash. Et la logique implacable de la source, c'est que si l'ordre intérieur d'une société est brisé, si ses dirigeants ne parlent plus qu'en cavac-vac en bébé, la réalité va finir par s'imposer de l'extérieur.
De force ?
Exactement. L'électrochoc ne viendra pas de gentils débats internes, il viendra d'un langage que personne ne pourra ignorer. Le texte annonce que le réveil se fera par des lèvres étrangères.
Et historiquement, ces lèvres étrangères, ce sont les armées assyriennes.
Voilà.
Puisque la nation a refusé d'écouter la vérité dans sa propre langue, la réalité brutale va lui être hurlée dans une langue sémitique inconnue par la force des armes. Et là, l'auteur de notre source fait un parallèle très audacieux avec notre époque contemporaine.
Ah oui, le passage sur le 11 septembre.
Voilà. Et pour être très clair avec ceux qui nous écoutent, on ne prend absolument pas parti ici. On se contente vraiment de rapporter fidèlement l'analyse de la source.
C'est important de le souligner. On reste impartiaux. Alors, comment le docteur Oswald relie les Assyriens au 11 septembre ?
Eh bien, l'auteur suggère que les tragédies nationales majeures ou le terrorisme international impliquant ces fameuses lèvres étrangères peuvent agir comme de violents signaux d'alarme pour une nation.
D'accord.
Selon sa grille de lecture, ces chocs viennent frapper une société qu'il estime profondément endormie, tu vois. Une société hypnotisée par son industrie du divertissement, saturée de matérialisme.
Et arrogante, surtout.
Exactement. Aveuglée par la croyance en sa propre supériorité intouchable. C'est l'idée que parfois, une catastrophe venant de l'extérieur vient briser le miroir de notre propre arrogance collective.
Et cette arrogance, d'ailleurs, elle est résumée par une phrase dans la source qui m'a fait grincer les dents.
Laquelle ?
C'est l'attitude qui consiste à dire « Délivre-nous, Seigneur, car nous sommes des gens si gentils ».
Ah oui, ça pique.
Mais c'est d'une ironie féroce. C'est cette conviction hyper toxique que sous prétexte qu'on trie ses déchets, qu'on est poli avec ses voisins et qu'on a un petit vernis de respectabilité, eh ben on est immunisé contre le désastre.
C'est l'absence totale d'introspection.
Mais totalement.
Et c'est exactement cette psychologie du déni qui s'empare de Jérusalem. Le plus tragique dans tout ça, c'est que 15 ans auparavant, ils ont vu le royaume du Nord s'effondrer à cause de cette même arrogance.
Ils ont eu l'exemple sous les yeux.
Ils ont vu les conséquences. Mais la psychologie humaine déteste tirer les leçons qui exigent un sacrifice d'ego.
C'est clair.
Alors, au lieu de se réaligner sur le Mishpat, sur cet ordre cosmique dont on parlait, les dirigeants de Jérusalem tentent une autre manœuvre. Ils pensent pouvoir gérer le cataclysme en s'appuyant sur de fausses garanties.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte les appelle les moqueurs. Et il affirme qu'ils ont conclu un pacte avec la mort.
Un terme très fort.
Ouais. Mais avant de parler du pacte en lui-même, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce mot « moqueur ». Parce que c'est pas juste quelqu'un qui fait de mauvaises blagues, si je comprends bien l'analyse.
Non, pas du tout. La définition biblique du moqueur ou du cynique va beaucoup plus loin. Le docteur Oswald explique que c'est vraiment le pire état de dégradation spirituelle possible.
Pourquoi ?
Parce que le moqueur ne se contente pas d'ignorer la vérité ou de faire des erreurs. Il a érigé la raillerie en système de défense. Il se moque activement du bien.
Ouais, c'est profond.
Il considère la droiture comme de la naïveté pure. C'est un cynisme super sophistiqué qui détruit toute possibilité de dialogue sincère. Et c'est ce cynisme qui les pousse, dans la panique, à concevoir ce fameux pacte avec la mort.
Mais psychologiquement parlant, comment on en arrive à signer un pacte avec la mort ? Ça n'a aucun sens instinctif.
C'est vrai.
La source propose deux hypothèses fascinantes là-dessus. La première, c'est l'ironie politique.
L'alliance.
Voilà. Jérusalem aurait fait une alliance secrète avec l'Égypte en espérant que le pharaon viendrait écraser les Assyriens pour eux. En gros, c'est s'allier avec une puissance tyrannique pour échapper à une autre.
Un pari risqué.
Très risqué. Et la seconde hypothèse, elle est beaucoup plus ténébreuse, je dirais. Il pourrait s'agir d'un pacte littéral avec Moth.
Moth.
Et le dieu...
Ouais, le dieu cananien de la mort. Ah oui, la mythologie cananienne de l'époque est hyper révélatrice là-dessus. L'auteur rappelle un mythe où Moth, qui est l'incarnation même de la mort, parvient à dévorer Baal.
Baal, c'est le dieu de la foudre et de la vie, c'est ça, hein ?
C'est ça. Et pour les habitants de la région à cette époque, la mort, c'était pas juste un concept, c'était une force active, vorace, avec laquelle on pouvait négocier.
C'est fou de penser ça.
Penser qu'on peut soudoyer la mort elle-même pour qu'elle passe son chemin, c'est vraiment le stade ultime de l'illusion de contrôle.
Et bien sûr, le docteur Oswald ne manque pas de transposer ses pactes avec la mort à nos comportements modernes.
Évidemment.
Parce que nos faux refuges aujourd'hui, ils s'appellent plus l'Égypte ou Moth.
Non, ça s'appelle comment alors ?
Ça s'appelle le complexe militaro-industriel, l'accumulation frénétique de capital ou la prolifération des quartiers ultra-sécurisés, tu vois, les gated communities.
Ah, je vois très bien.
On érige des murs en béton, on engage des gardes privés, on accumule les zéros sur des comptes offshore, intimement convaincus que, si l'on paie le prix fort, le chaos du monde s'arrêtera gentiment à notre portail.
Ce besoin désespéré de contrôle, d'ailleurs, ça nous amène à l'une des réflexions les plus percutantes de toute la source.
La citation de Bonhoeffer.
Exactement. L'auteur cite le théologien Dietrich Bonhoeffer, et c'est une phrase qui retourne complètement notre conception de la sécurité. Il dit « On ne possède vraiment quelque chose en sécurité que si, au fond de soi, on sait qu'on serait mieux sans. »
Waouh ! C'est le genre de phrase qu'il faut entendre deux fois pour bien la digérer. On ne possède vraiment quelque chose en sécurité que si on sait qu'on serait mieux sans.
Ça fait réfléchir, hein ?
C'est une critique radicale de notre attachement. En gros, si je suis terrifié à l'idée de perdre mon statut, ma maison hyper sécurisée ou mon compte en banque, ce ne sont plus des outils à mon service.
Non, ils deviennent tes maîtres.
C'est eux qui me possèdent. Mon angoisse fait de moi leur esclave.
Absolument. Tant qu'une chose dicte tes choix par la peur de la perdre, tu es enchaîné. C'est l'antithèse absolue de la solution que le texte d'Ésaïe propose.
La pierre angulaire.
Voilà. Le texte parle d'une fondation préalablement testée, solide, une assise intérieure qui permet de traverser la crise sans céder à la panique aveugle, sans avoir besoin de courir vers l'Égypte ou vers nos fameux comptes en banque pour trouver une illusion de salut.
Et pour prouver que cette posture, c'est pas juste un idéal poétique abstrait et que le mishpat cosmique est une réalité hyper tangible, la source utilise une analogie que je trouve brillante.
Ah, l'analogie du fermier ?
Ouais. Elle descend des grandes sphères politiques pour observer un simple fermier. C'est un contraste volontairement humiliant pour les intellectuels arrogants de la capitale que le texte nomme Ariel d'ailleurs.
Oui, l'analogie du fermier est cruelle pour les élites. Le prophète observe ce paysan qui n'a fait aucune grande école, qui ne porte aucune couronne de fête ridicule.
C'est le bon sens paysan.
Et voilà, ce fermier possède une intelligence fondamentale. Il comprend l'ordre des choses. Il sait pertinemment qu'on ne passe pas la charrue sur une terre qui vient tout juste d'être hercée.
Ça n'aurait aucun sens.
Il sait qu'on ne sème pas en plein milieu de la sécheresse. Il respecte la physique de son environnement. En fait, il a complètement intégré le mishpat naturel.
Alors que les dirigeants de Jérusalem, avec tous leurs diplômes et leur sophistication, ils sont dans un aveuglement spirituel absolu. Ils croient sincèrement pouvoir tordre les lois de cause à effet.
Et c'est cet aveuglement qui nous amène au chapitre 29, qui dissèque un autre symptôme majeur de cette décomposition sociétale.
La prolifération des rituels vides.
C'est ça. Le texte décrit un peuple qui, je cite, « honore des lèvres, mais dont le cœur est éloigné ».
C'est hyper clinique comme description de la psychologie des foules en temps de crise, je trouve.
Mais pourquoi on fait ça, à ton avis? Pourquoi on se réfugie dans des rituels vides quand le monde s'effondre?
Bah parce que ça donne l'illusion de l'action, non?
Exactement. L'auteur décrit un état où la moralité et la spiritualité ne sont plus que des coutumes mécaniques, un petit vernis social transmis par habitude.
Il n'y a plus rien derrière.
Il n'y a plus aucun engagement intérieur. C'est juste une performance théâtrale pour apaiser l'angoisse collective. On coche les cases, on récite les bonnes petites formules religieuses ou sociétales, en espérant que la tempête va juste passer. Mais le cœur du système est éteint.
Et face à un système entièrement sclérosé par la peur, par ses rituels vides et par l'arrogance, l'effondrement n'est plus seulement une menace extérieure. Ça devient presque une nécessité chirurgicale.
C'est un mot fort, chirurgical.
Bah oui, et ça m'amène à un tournant majeur du texte que le docteur Oswalt met vraiment en évidence. Il insiste tellement sur ce point qu'il le fait répéter à son auditoire.
La fameuse phrase sur le jugement.
Voilà, le jugement n'est jamais le dernier mot intentionnel de Dieu.
C'est vraiment le pivot de toute cette analyse. Parce qu'après avoir longuement décrit la terreur des bulldozers syriens, l'ivresse des élites, les faux pactes et tout le reste, le texte révèle enfin son intention finale.
Qui n'est pas la destruction totale.
Non. La crise, l'effondrement, même s'ils sont d'une brutalité inouïe, ne sont pas conçus comme du pur nihilisme. Le but, c'est pas de raser la ville juste pour le plaisir de raser.
L'objectif de la tempête, c'est l'incendie purificateur. Il s'agit de brûler les illusions qui nous maintiennent dans l'esclavage, comme tu disais tout à l'heure avec Bono FR.
C'est ça.
C'est pulvériser les couronnes d'ivresse, exposer le charabia insensé du cave va cave et faire s'effondrer ces faux pactes ridicules avec la mort.
L'idée, c'est que tant que nous avons encore l'illusion de pouvoir nous sauver par nos propres compromissions cyniques, on refuse la véritable transformation.
C'est dur, mais c'est logique. La douleur de la destruction précède souvent l'opportunité d'une guérison radicale.
C'est une mécanique implacable, oui. Si une structure entière est bâtie sur la certitude de sa propre invisibilité et sur des mensonges, la seule façon de forcer la reconstruction sur une fondation authentique, la fameuse pierre angulaire, c'est de laisser les illusions s'effondrer d'elles-mêmes.
Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui quand on écoute ça? Si l'on rassemble toutes ces pièces décortiquées par le docteur Oswalt, on obtient vraiment une cartographie très précise de la psychologie humaine face à l'effondrement.
Un guide de survie intérieure, presque.
Ouais. Que la crise soit un conflit géopolitique majeur, un tsunami économique ou même un drame personnel, notre pire ennemi reste toujours notre propre instinct de contrôle.
L'arrogance.
C'est l'arrogance qui nous rend sourds aux avertissements. C'est la précipitation cynique qui nous pousse à signer des chèques en blanc à nos dieux de la mort moderne, en sacrifiant nos valeurs profondes juste pour préserver un confort matériel éphémère.
Et tout ça en se donnant bonne conscience.
Cave. En se cachant derrière de jolis rituels sociétaux, en se répétant en boucle que, vu qu'on est fondamentalement des gens gentils, le malheur ne frappera qu'à la porte des autres.
La résilience, la vraie, ne se trouve jamais dans le déni, ou dans l'accumulation frénétique de fausses sécurités. Comme l'a si bien montré l'anecdote de Francis Avergal au tout début de notre discussion, la véritable force ne réside pas dans des décennies de rituels mécaniques.
C'est ça.
Elle se trouve dans l'authenticité d'une fondation interne qui ne tremble pas, même quand l'armée ennemie est à seulement 10 km.
Ce qui pose, je trouve, une question fascinante sur la nature de notre propre modernité aujourd'hui.
Une question essentielle, oui. Et ça nous amène à une réflexion finale que l'on peut tous appliquer à notre réalité immédiate. Ceux qui nous écoutent, posez-vous la question. Si l'on retirait brusquement nos filets de sécurité technologique et financiers demain matin?
Aïe aïe.
Si le flux ininterrompu de nos divertissements s'arrêtait d'un seul coup, découvririons-nous que ce que nous appelions si fièrement notre résilience n'était, en réalité, que du simple confort?
C'est la vraie question.
Est-ce que les prétendues pierres angulaires de nos vies tiendraient vraiment le choc? Ou réaliserions-nous avec effroi que nous ne faisions que balbutier des illusions dans la poussière? C'est un défi intellectuel majeur, examiner la solidité de nos propres fondations, de nos véritables loyautés, pendant que l'air est encore calme et bien avant que l'orage n'éclate.